fait un peu un survol. Hein. Enfin, on a quand même vu l'essentiel. Hein. Et ce soir, nous verrons d'abord, on terminera un petit peu ce qu'on a vu hier, en parlant des noces de l'agneau, et puis la partie essentielle de cette soirée, en fait, c'est l'essentiel. J'allais dire, en gros, c'est d'être prêt. Voilà, parce qu'on peut connaître beaucoup de détails, on peut connaître bien des textes de la parole de Dieu, le déroulement des choses, en fait, etc. Mais bon, finalement, si on n'est pas prêt, on n'est pas plus avancé. Et on verra donc comment l'Écriture nous exhorte justement à être prêt. Bon, déjà, on sait que le Seigneur Jésus, je le disais dimanche matin, a toujours répété cela aux disciples ou enfin à tous ceux qui ont posé des questions. Quand est-ce que ces choses doivent arriver? Enfin, peu importe. À chaque fois, le Seigneur a dit ceci, eh bien, veillez et priez, ou bien soyez prêts, comme on le verra. Je le dis à tous, soyez prêts. Parce que pour Jésus, ben, l'essentiel est là, bien sûr, évidemment, pour nous aussi. Nous allons donc parler ce soir des noces de l'agneau. Je vais faire la diapo suivante, merci. Là, nous avons deux textes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. J'y reviendrai un peu plus dans le détail tout à l'heure. La diapo, de, voilà. Et puis Luc 13, 19. 13, 29, pardon. Mais il y a un texte ce soir, excusez-moi, je bouscule un peu des fois les choses, je sais que je suis toujours un cauchemar pour les projectionnistes, mais j'ai pensé à ce texte que je voulais citer hier, mais je n'ai pas eu le temps. Vous le connaissez certainement dans Jean chapitre 14, verset 2. C'est ce passage où le Seigneur dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et finalement, quand on lit ce texte, peut-être que de prime abord, on ne réalise pas trop, surtout nous, dans notre contexte actuel, dans notre culture actuelle, on ne réalise pas vraiment le sens profond de ces paroles de Jésus, chose que, je suppose, les disciples ont dû quand même saisir, parce qu'en fait, là, Jésus, en quelques mots, tout simplement, est en train de parler de ce qu'étaient les noces de son époque. Et rappelez-vous, lorsque Jésus donnera cette parabole des vierges, hein, les dix vierges, vierges sages, vierges folles. Et dans cette parabole, il dit, n'est-ce pas, que bon, ben, les vierges sont là, attendent l'époux pour l'accompagner en quelque sorte, c'est un peu les demoiselles d'honneur, pour accompagner l'épouse avec l'époux qui revient donc chez lui, etc., après être venu chercher son épouse. Et en fait, c'était ainsi que en quelque sorte, les noces se faisaient hein, au départ, puisque c'est l'époux qui, enfin, j'allais dire le promis, puisqu'en ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. En fait, c'est les parents déjà qui avaient arrangé les choses. Des fois, déjà à l'adolescence, hein, rappelez-vous, Marie, donc quand l'ange vient lui parler, elle était déjà fiancée à Joseph, mais Marie était une adolescente. Elle était déjà promise, c'était déjà fiancée. En fait, les parents arrangeaient plus ou moins les choses. Et puis ensuite, à partir du moment où ils s'étaient entendus entre eux, eh bien, on préparait le fiancé, préparait la demeure qui allait être celle du couple, enfin, de la famille, le foyer. Et souvent, eh bien, c'était dans la maison même familiale, soit parce que la maison était, vous savez, c'était pas comme les maisons d'aujourd'hui parfois, hein. Il y avait de grandes maisons, donc on pouvait très bien réserver une partie pour le nouveau couple, soit que, eh bien, on construisait encore, attenant à cela, une dépendance, en quelque sorte, qui allait devenir le foyer du nouveau couple. Et quand tout était prêt, alors, quand le temps était fixé, parce qu'il y avait eu un temps de fixer, quand le temps était fixé, alors l'époux, le fiancé encore, se rendait à la maison de l'épouse, domicile de l'épouse, et puis là, eh bien, la ramener avec lui, avec tout le cortège, hein, donc ben, les demoiselles d'honneur ou les vierges, etc., l'a ramené à la maison. Et là, donc, eh bien, chez lui, avait lieu les noces, officiellement, disons, et ensuite le repas des noces, le festin des noces, qui pouvait durer jusqu'à 7 jours et voire plus. Vous voyez, donc c'était un gros festin où tout le monde était invité, en fait, hein, parce que c'est pas comme aujourd'hui, il y a des invitations officielles. À l'époque, eh bien, tous les voisins, les amis, le village, enfin, les gens venaient, restaient, repartaient. En fait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et imaginez-vous donc, dans ce contexte-là, les disciples qui entendent Jésus dire « Je vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, eh bien, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus était en train de parler des noces. Avant l'heure, hein, mais il était en train de parler des noces. Il s'adressait à ses disciples, mais il était en quelque sorte déjà en train de dire, eh bien, vous serez l'épouse de l'agneau, vous serez l'épouse de Christ. En de nombreux passages de l'Écriture, cette relation entre Jésus et l'Église est révélée aussi, c'est une façon bien particulière de révéler, par l'usage justement de cette image de l'époux et de l'épouse, cette relation intime, étroite et intime que Jésus a avec son Église. Et c'est quelque chose, frères et sœurs, qu'il faut aussi que nous réalisions cela, cette intimité, ce privilège extraordinaire qu'est cette intimité avec le Seigneur. Alors, on aurait pu lire quantité de textes, Jean 3, 29, Romains 7, 4, 2 Corinthiens 11, 2, Éphésiens 5, 25 à 33, Apocalypse 19, les versets 7 et 8, Apocalypse 21, les versets 7, jusqu'au chapitre 22, verset 7. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de textes. Alors, j'en profite parce que je sais que c'est enregistré pour les donner, comme ça, après, vous pouvez les regarder tranquillement. Mais en l'enlèvement de l'Église, donc, Christ se présente comme cet époux, bah, qui vient prendre son Église avec lui, comme on l'a vu, hein, et afin que la relation donc promise puisse cette fois être concrétisée. Et j'oserais dire que les deux ne deviennent vraiment qu'un. Parce que n'oublions pas ce principe-là, c'est que dans le mariage, hein, si j'ose dire, eh bien, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, etc., et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Hein. Alors là, il n'y avait pas question de chair, mais spirituellement, l'époux et l'épouse ne font plus que. Et on a souligné, hein, ces jours passés, que, eh bien, à partir du moment où l'Église est enlevée, hein, dans le ciel, après le tribunal, après les récompenses, etc., donc il y a les noces, et il est dit, hein, qu'ils seront, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et à partir de là, dans le livre de l'Apocalypse, quand on voit le Seigneur, à part les premiers chapitres qui concernent les choses de ce moment-là, mais à partir de là, dans le livre de l'Apocalypse, chaque fois que l'on voit l'époux, eh bien, il est question de l'épouse, et vice-versa. En fait, ils ne font désormais plus qu'un. Ce temps donc de noces se situe entre l'enlèvement de l'Église et donc son retour, le retour de Jésus avec son Église sur la terre. Et selon Apocalypse 19,7, ces noces ont déjà eu lieu au moment du retour. Parce qu'il est dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ça, c'est la traduction que nous avons en français. Bon, j'allais dire qu'il ne peut pas être traduit autrement avec notre vocabulaire, mais dans le texte original, en fait, il y a un verbe en grec qu'on appelle l'aoriste, et ce temps-là employé parle de quelque chose qui a déjà été accompli, un acte déjà accompli. En fait, quand il est dit « les noces de l'agneau sont venues », ça veut dire qu'elles ont été. Elles ont été venues. Bon, en français, ça ne veut rien dire. Donc, mais ça y est, les noces sont venues, ça a eu lieu, et son épouse a été préparée. Donc, quand dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, on voit l'épouse qui revient, qui vient avec l'époux, eh bien, elle a déjà été préparée. Elle est prête. Elle a été préparée. Les noces ont eu lieu. Le mariage, excusez-moi l'expression, c'est peut-être un peu maladroit, mais le mariage a été en quelque sorte consommé. Et il se situe bien après donc le tribunal de Christ, puisque quand l'épouse apparaît, elle apparaît donc, je l'ai dit, préparée, et il est dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Rappelez-vous ce qu'on a dit donc hier par rapport au tribunal de Christ, c'est-à-dire qu'en fait, il ne reste que les œuvres pures, hein, les œuvres justes. Et au pluriel, les œuvres justes, parce qu'on ne fait pas référence là à la justice de Christ dont nous sommes revêtus en quelque sorte, qui est impartie à la conversion, mais à cette justice qui a passé l'examen, comme on le disait hier, et qui est donc devenue la base pour les récompenses. Ce qui ne fait pas référence aux choses, qui ne peut faire référence qu'aux choses qui ont été acceptées au tribunal de Christ. Donc, entre le tribunal et la deuxième venue. Le lieu de ces noces ne peuvent être que dans les cieux. Dans la mesure donc où elles font suite au tribunal de Christ, qui a eu lieu dans les lieux célestes, et parce que dans le verset 14 d'Apocalypse 19, c'est du ciel que l'Église descend, quand le Seigneur revient. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc ça s'est passé dans le ciel, puisque maintenant elle revient sur la terre, transformée. Les noces, donc, ont eu lieu dans les cieux. Et j'oserais dire qu'aucun autre lieu ne convient pour une épouse fidèle de l'agneau. Ça, c'est important aussi que nous le comprenions. Les noces, c'est là-haut pour l'Église. C'est un événement, diapo suivante. Oui, voilà, merci, c'est bon, c'est là des bonnes diapos. C'est un événement qui ne peut impliquer que Christ et son Église. C'est là que je disais, en commençant, rappelez-vous, ne confondez pas ce qui concerne l'Église, ce qui concerne Israël et ce qui concerne les nations. Les noces de l'agneau, c'est l'Église. Et ça donne aussi un éclairage différent quand on comprend ça. Et quand, par exemple, on médite cette fameuse parabole dont je parlais tout à l'heure, les paraboles vierges. N'oublions pas que Jésus parle au peuple d'Israël, parle aux disciples, mais qui sont encore le peuple d'Israël. Parce que je veux dire quelque chose, frères et sœurs. Moi, je ne veux pas être invité. Je ne veux pas faire partie des invités. Moi, je ne veux pas être, excusez-moi l'expression, les demoiselles d'honneur ou les jeunes d'honneur, je ne sais pas trop quoi dire. Enfin, moi, je ne veux pas faire partie du cortège. Moi, je veux être l'épouse. C'est là où est toute la différence. Et dans certaines paraboles, nous ne la faisons pas, cette différence. Alors évidemment, l'enseignement, c'est le fait d'être prêt. C'est ça qui est essentiel dans cette parabole-là. Mais des fois, on va trop loin dans les détails de ces paraboles, avec les vierges, ceci, les vierges, cela. Mes amis, rappelez-vous ce que nous avons dit. Bien sûr qu'on le retrouve aussi dans cette parabole, mais où nous sommes prêts, nous partons, où nous ne sommes pas prêts, nous ne partons pas. Vous voyez ? Mais les vierges ne sont pas l'épouse. Or, nous sommes l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. Les paraboles comme aux invités aux noces que l'on trouve là, celui qui est là assis et qui n'a pas un habit de noces, à qui on dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne sait pas quoi répondre et puis on le jette dehors. Mais mes amis, non, aux noces, si on y est, c'est qu'on est sauvé. Vous voyez ? Et personne ne pourra arriver aux noces. En plus, là, c'est un invité, c'est même pas l'épouse. Mais personne ne peut arriver aux noces, si j'ose dire, de l'agneau, et tout d'un coup, s'entendre dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce que si on est aux noces de l'agneau, bon, on est déjà passé par tout le reste, et on est passé par l'enlèvement, ce qui veut dire qu'on est sauvé. Une fois là-haut, excusez-moi l'expression, hein, j'espère que je ne veux pas vous choquer, une fois là-haut, on ne se fera pas virer. Hein. Voilà, on est l'épouse. Ou on est l'épouse ou on n'est pas l'épouse. Alors ensuite, voilà pourquoi je disais, n'est-ce pas, que ça se passe là dans le ciel, ça implique Christ et son Église. Par rapport à cette annonce qui est faite dans Apocalypse 19, 9, où il est dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Donc si vous remarquez bien, on a deux expressions là, qu'il faut bien distinguer. On a les noces de l'agneau, et on a le festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau font référence à l'Église, je répète, et ont lieu dans le ciel ou dans les cieux. Le festin des noces de l'agneau implique, lui, Israël, et a lieu sur la terre. La terre de ce moment-là. Hein. Après, donc, rappelez-vous, la tribulation, etc. Je redonne des textes comme Matthieu 22, versets 1 à 14, Luc 14, versets 16 à 24, Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, où Israël attend le retour de l'époux et de son épouse, où le festin des noces est localisé sur la terre, et où il est fait donc spécialement référence à Israël. Le festin des noces, c'est en fait le symbole de l'ère du millénium, ce règne de 1000 ans, auquel Israël, pendant la tribulation, pendant le temps de tribulation, auquel Israël est invité pendant cette période-là. Invitation que beaucoup rejetteront et que, bien sûr, par conséquence, seront jetés au dehors. Et que beaucoup d'autres accepteront et seront alors introduits ou demeureront dans ce règne de 1000 ans. Au retour du Seigneur, Israël attendra ou verra que l'époux vienne de ses noces et l'invite alors à son festin où l'époux présentera son épouse à ses amis. Vous relirez cette parabole de Matthieu 25, versets 1 à 13. Parce que rappelons-nous une chose, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, Israël est l'épouse de Dieu. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Ne confondons pas. Israël est l'épouse de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, avec les prophètes, etc., Dieu souvent, justement, traite Israël, le peuple d'Israël, d'adultère. Hein, qu'il a trompé, etc. Bon, bien sûr, c'est une image, hein, mais qu'il le trompait avec les idoles, qu'il le trompait, etc., et Dieu parle de son épouse. Mais quand Jésus parle de son épouse, il parle de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est composée, bien sûr, de juifs et de non-juifs. Et juifs ou non-juifs, aujourd'hui convertis à Jésus, sont l'épouse de Christ. Entendons-nous bien. Mais Israël, si je veux dire, dans son essence pure, eh bien, c'est l'épouse de Dieu. L'épouse sera enlevée, l'épouse de Christ sera enlevée, bah, l'épouse de Dieu, elle, continuera, je veux dire, son destin sur cette terre. Et il y aura cette réconciliation, en quelque sorte, mais à ce moment-là, avec le millénium et tout ce qui va avec. J'espère que tout cela est bien calé dans nos esprits. Nous sommes aujourd'hui l'épouse de Christ et nous, excusez-moi quand je dis ça, c'est pas par orgueil, mais nous, épouses de Christ, eh bien, je veux dire, nous serons forcément aux noces. Parce que quand on s'est marié, on était aux noces. Certains, un jour, quelqu'un m'a dit oui, mais pas à la fête. Peut-être, je ne sais pas. Mais on était aux noces. Ça ne nous est pas venu à l'idée de dire à notre fiancé, notre future femme, ou vice-versa. Hein, ça ne nous est pas venu de lui dire, écoute, je t'invite à mes noces. Ça aurait paru mal, non? Chérie, tu sais, je t'invite à mes noces. Oui, mais moi, je me marie avec toi. Oui, d'accord, mais moi, je t'invite quand même. Enfin, ça ne serait pas venu à l'esprit. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous sommes appelés, eh bien, à nous unir à Christ éternellement lors de ces noces. Ne ratons pas le coche. Je vois plusieurs qui sont dubitatifs. Réfléchissez bien à ces choses. Et je répète, frères et sœurs, moi, je ne veux pas être invité aux noces. Moi, je veux être l'épouse. Je ne veux pas être demoiselle d'honneur ou je ne sais trop quoi. Je veux être l'épouse. Et je ne veux pas être simplement celui qui est l'ami de l'époux, qui se réjouit ou que sais-je encore. Je veux être l'épouse. Parce que l'Église, c'est l'épouse, frères et sœurs. Réfléchissons bien à cela. Nous allons aller maintenant dans cette partie ce soir. qui est là, donc il faut faire une petite manip. Être prêt. Alors, être prêt, pourquoi ? Ben, tout simplement déjà à cause de la soudaineté de son retour. Je ne sais si vous avez remarqué, dans l'Ancien Testament, on trouve ces expressions, par exemple, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais Jésus lui dit « Soyez prêts ». Bon, il est évident que pour être prêt, il faut se préparer. On est d'accord. Et quand Jésus dit eh « bien, soyez prêts », ça suppose qu'il y a eu une préparation. Il faut bien qu'à un moment donné, on se convertit, par exemple, il faut bien bon, qu'on commence à grandir dans la foi, etc., qui est comme une préparation. Mais quand Jésus parle, il ne dit pas « préparez-vous », « soyez prêts ». Parce que quand on dit « bon, il faut se préparer, on doit se préparer », ça laisse toujours une idée, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je ne suis jamais pressé. Donc, mon épouse des familles Jean-Claude, il faut se préparer, prépare-toi. Oui, je vais me préparer. Mais bon, il faut être prêt. Parce que, comme on l'a dit, n'est-ce pas, quand il viendra, il faut qu'on soit prêt. Et dans Marc, chapitre 16, verset 36, il est dit « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Donc la soudaineté. On a vu que c'était imminent de moment, mais là c'est soudain. Et on a parlé de cet enlèvement qui est donc on disait en anglais le kidnapping. Ça part d'un coup. Et il y a combien de textes comme cela ? J'en ai noté. Alors je ne vais pas vous refaire toute la liste. Mais vous avez souvent cette expression qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Hein, comme un voleur dans la nuit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un voleur, entendons-nous bien, mais dans le sens de surprise. On ne l'attend pas, ça. Et Jésus, d'ailleurs, dans une parabole, dit ben, si le maître de maison savait à quelle heure, il ne se laisserait pas voler. Voyez. Donc, on ne l'attend pas. Et puis, malheureusement, quand c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, il y a cela, n'est-ce pas ? Cette soudaineté. Et on a vu tout ce qu'on a déjà vu ensemble, mais une chose est sûre, c'est que, je le rappelle parce que c'est important, il n'y a aucun signe, Jésus n'a donné aucun signe pour annoncer sa venue, l'enlèvement de l'Église. Il y en a pour Israël, il y a pour les nations, il y a quand son retour sur la terre, ok, mais pour l'enlèvement de l'Église, il n'y en a aucun. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Maintenant, la question, diapo suivante, c'est est-ce que nous attendons vraiment avec impatience le retour de Jésus ? Est-ce que nous attendons vraiment avec impatience le retour de Jésus ? On est tellement pris par notre vie dans ce monde. Hein, tellement oppressante, stressante, enfin, etc., que finalement on est comme, enfin, je sais pas, hein, mais comme dans un tourbillon, etc. Mais est-ce qu'on attend vraiment avec impatience le retour de Jésus ? Et qu'est-ce que on est supposé faire jusqu'au retour de Jésus ? Eh bien, dans la Bible, nous allons voir ce soir cinq mots, cinq verbes qui sont en fait une réponse. Des mots qui représentent l'ordre de marche, si je puis dire, pour nous. Un mode opératoire. Ce sont les mots faire valoir, se purifier, veiller, être rempli et adorer. Alors, bien sûr, on va aller assez vite ce soir. Parce que je ne peux pas prendre le temps, qu'on pourrait passer à chacune de ces choses. Mais on va quand même les voir ensemble, on va voir l'essentiel de tout cela. Diapo suivante. Dans une parabole, qui est celle de Luc, chapitre 19, alors c'est les versets 11 à 27, je ne cite que le verset 13, Jésus montre qu'il est important que la vie continue jusqu'à son retour. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme les disciples qui sont là et puis regardent le ciel où Jésus est vient de partir, au point que les anges viennent pour dire « Bon, ça va, Hein, voilà. Il faut arrêter de regarder là. Jésus vous a dit quelque chose, donc allez faire ce que Jésus vous a dit. Et le fait d'attendre le retour du Seigneur, ce n'est pas non plus rester comme des contemplatifs, comme autrefois il y avait un ordre de moines contemplatifs là, hein, qui faisaient rien de la journée. Mais bon, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Dans cette parabole-là, au contraire, il nous dit que ben, la vie elle continue et puis c'est important d'être ce qu'on doit être. C'est ce fameux homme de haute naissance qui s'en va dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, etc., et puis qui revient. Alors vous rappelez, bon, il a ses 10 serviteurs, il leur donne 10 mines, et puis il dit quelque chose d'important, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Et ce mot « faites-les valoir » est intéressant. Excusez-moi encore une fois, mais dans le grec, c'est le mot « pragmateomai ».« Pragmateomai », qui a donné le mot « pragmatique ». Et Jésus, en fait, dit dans cette parabole, ce maître dit à ses serviteurs, soyez pragmatiques. Et si on regarde les définitions qu'en donne un dictionnaire biblique du grec, c'est donc commercier certainement, mais se donner de la peine. Se livrer à l'étude d'eux. Ce qui veut dire que le fait que le maître soit parti et leur ait confié des choses, demander à ce qu'ils étudient la question. Pourquoi, comment, fait, etc., je ne sais pas, mais enfin, voilà. Cette mine d'argent, bien sûr, on le sait, c'est une certaine somme d'argent que le maître donc donne aux serviteurs et à charge de les faire valoir, de s'en occuper. Et si on ne peut plus clair. La volonté du maître, ce n'est pas que ce serviteur donc s'assoie sans rien faire, l'argent sur une étagère dans un coffre, mais fasse valoir cela. Et on le sait, deux serviteurs vont le faire et vont recevoir donc les récompenses, les éloges, etc. Et un ne le fait pas. Et lui, ben, au contraire, il s'attire la réprobation quand le maître revient. Mais écoutez, rappelez-vous l'excuse de ce serviteur que le maître appelle méchant serviteur. L'excuse, c'était quoi ? Eh ben, je sais que tu es un maître dur. Maître méchant, tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que je n'ai pas semé, etc. Et le maître lui dit, ben alors pourquoi tu n'as pas pris mon argent ? Tu n'as pas mis dans une banque jusqu'à mon retour, que je le retire avec intérêt. Puisque tu sais que je suis un homme dur, que, etc. Bon, et pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire ? Et il dit, n'est-ce pas, eh bien, à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Je te juge sur tes paroles. Tu dis quelque chose, mais tu as fait le contraire. Tu dis que je suis un maître dur, tu dis que je suis sévère, tu dis que je prends là où je n'ai pas mis, etc. Et qu'est-ce que tu as fait ? Bah, tu as fait exactement le contraire. Tu as été planqué l'argent. Si c'est vrai que tu pensais ce que tu dis, bah, tu aurais dit, j'ai intérêt à faire fructifier cet argent. J'ai intérêt à le faire valoir, parce que quand ça va revenir, ça va chauffer. Sauf que c'était faux. En réalité, ce n'est pas ce qu'il pensait. En réalité, il pensait cela coulait douce. Et après, il a trouvé une excuse pour dire... Et c'est là que le Seigneur dit, soyez pragmatiques. Il nous demande d'être pragmatiques. Il faut que nos actes correspondent, ou nos paroles correspondent à nos actes. Si tu dis une chose, il faut que ce que tu fais le prouve. Si tu crois quelque chose, il faut que ce que tu es le démontre. Si tu as peur de moi, ben montre que tu as peur de moi. Enfin, je parle dans ce contexte-là, pas par rapport au Seigneur pour nous. Mais hein, si tu as tellement peur de moi, alors comment ça se fait que tu agis comme ça ? Soyons pragmatiques. Soyons vrais. Seigneur, simplement attend de nous un service dévoué. On a parlé de ces œuvres, de ces efforts même déterminés qui produisent des résultats, c'est ce qu'on a dit. Simplement en faisant valoir ce qu'il nous a donné. Parce que c'était ça. Il n'aura pas dit, écoutez, je m'en vais, quand je reviens, je veux que vous soyez débrouillés pour me trouver de l'argent. Non, il leur a confié quelque chose. Simplement, ils n'avaient qu'à faire valoir ce que le maître leur avait confié. Et tout simplement en s'occupant à son service, en attendant son retour. Et vous voyez, souvent le problème est là. Le problème est là, souvent. Et le problème, souvent, et rappelez-vous de cette autre parabole, ce serviteur, à qui le maître confie finalement sa maison et qui a les autres serviteurs sous ses ordres. Au début, tout va bien. Parce que si le maître lui confie cette tâche, c'est qu'il a confiance en lui, on suppose. Tout va bien, sauf que, rappelez-vous, à un moment donné, ce serviteur se met à dire « Mon maître tarde à venir ». Et c'est là que tout change. « Mon maître tarde à venir ». Alors il se met à battre les autres serviteurs. Il se met à boire, etc., etc. Bon, il vit un peu n'importe comment. Et quand le maître revient, boum. À partir du moment où mon maître tarde à venir. Et frères et sœurs, veillons, comme on l'a dit, n'est-ce pas, à être dans l'attente du retour du Seigneur. Parce que cette perte de notre espérance, eh bien, implique malheureusement un tournant dans notre vie spirituelle. La deuxième chose, diapo suivante, c'est se purifier. Et dans Tite chapitre 2, verset 11, j'ai pris ce verset, il y en a combien d'autres? Mais il est dit ceci, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous annonce à renoncer à l'impiété, convoitise mondaine, vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours relié, voyez, toujours relié au retour du Seigneur, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Renoncer à l'impiété, vivre selon la sagesse, la justice et la piété, purifié par lui. Ça, c'est ce que doit être notre vie. Alors, ce n'est pas instantané, je suis d'accord avec vous. Le texte ne dit pas que du jour au lendemain, nous allons être parfaits. Mais que nous devons avoir envie d'être parfaits. Que nous devons tout faire pour tendre à la perfection. Et pas comme parfois on peut le faire en disant « Mais de toute façon, ici-bas, on ne sera jamais parfait, on sera parfait là-haut. » Donc du coup, bon, on attend là-haut pour être parfait, on ne fait plus rien. Non, mais d'accord, on sera parfait là-haut. Mais en attendant, toute la parole de Dieu. J'ai pris ce texte, mais combien d'autres textes? Et rappelons-nous ce passage, n'est-ce pas, de l'Écriture, où il est dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Et la sanctification dans le sens aussi, bon, bien sûr, de se consacrer à Dieu, etc., mais de se purifier soi-même. Vous savez, la première chose qu'apprend un médecin, ou enfin peu importe, ceux qui vont travailler dans le milieu médical, ce sont les règles de prophylaxie, kézaku, d'hygiène. Hein, de tout faire pour éviter de propager les microbes. Parce que, ben évidemment, on est au contact de gens qui ont... Mais imaginez un bon chirurgien, un chirurgien impeccable, mais qui ne se lave jamais les mains. Ou qui, ne passe pas à faire ces règles. Qu'est-ce qui se passait au début de la médecine? Un jour, j'ai vu un genre de film à ce sujet. Bon, on venait de disséquer les morts, etc., pour montrer aux étudiants comment ça se passait. Une espèce de tablier, on s'essuyait les mains dessus, on allait accoucher la femme d'à côté. Et puis, je ne sais plus le pourcentage de bébés qui mouraient, de femmes qui mouraient, parce qu'évidemment, elles avaient reçu. Alors, on peut être un excellent chirurgien, mais s'il n'y a pas ces règles de purification, de pureté, ben, ça ne sert à rien. Et une bonne médecine doit suivre les règles d'hygiène. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose concernant le retour du Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Ça commence comme ça. Hein? Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La troisième chose, diapo suivante, c'est de veiller. Alors j'ai insisté souvent là-dessus, n'est-ce pas? Mais déjà ce passage de Matthieu 13, 33 à 37. Pourquoi? Marc, pardon, merci. Pourquoi? Parce qu'il est dit, au verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, car je vous dis ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. quatre fois. Quatre fois. Seigneur insiste. Veillez, 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 veillez. Et je crois que à la lumière de cette insistance dans les propos de Jésus, on ne peut pas dire autre chose qu'il faut bien qu'on veille. C'est non seulement un ordre, j'allais presque dire un conseil de la part du Seigneur. Et hélas, combien de temps passons-nous sans même une seule pensée par rapport au retour du Seigneur? Alors je sais, ça aussi on me l'a dit, oui mais frère, il faut aussi avoir les pieds sur la terre. Mais je suis d'accord. On peut avoir les pieds sur la tête, la tête sur la terre, on peut tout avoir sur la terre et penser quand même au retour du Seigneur, il revient, voilà, il faut, et pas simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être pragmatique. Si je crois au retour du Seigneur, ben il faut que ma vie le montre. Si je crois au retour du Seigneur mais que je vis n'importe comment, je ne suis pas pragmatique. Si je crois au retour du Seigneur et que je me mets à battre les autres serviteurs, pour reprendre la parabole tout à l'heure, hein, commencer à couper les têtes et les oreilles et le reste, parce que des fois la parole de Dieu, elle est tranchante, c'est sûr, c'est toujours qu'elle est tranchante. Mais en principe, elle est tranchante pour nous. Ouais, elle partage les sentiments, Hébreux 4, hein, de nos cœurs, etc. Et puis, il y a des fois, la parole de Dieu, eh bien, elle sert un peu comme Pierre a fait. La parole de Dieu, c'est une épée. Et quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a sorti l'épée. Genre, tac, l'oreille de Malchus. Bon, Jésus l'a guéri, heureusement que Jésus était là. Mais je vais vous dire quelque chose entre nous, hein, secret. Mais Pierre, il ne visait pas l'oreille de Malchus. Hein. Il lui visait la tête. Hein. Sauf que bon, Pierre, c'était pas un guerrier, hein, il ne savait pas trop manier. Mais vous savez, des fois, le problème, c'est que on manie bien l'épée. À coup de versets bibliques, on coupe les oreilles. Puis des fois, à force de couper les oreilles, on a rendu les gens sourds. C'est ça qui est le problème. Mais vous voyez, le méchant serviteur, quand il a commencé comme ça, pourquoi il a commencé comme ça? Parce qu'il a dit, mais mon maître tarde à venir. Et là, donc, comme je dis dans ce texte-là, de veiller, etc., ben, d'abord, être en paix, et ensuite se sanctifier, etc., etc. Plus on devient, en fait, conscient, sensible aux choses spirituelles, plus on l'est du retour du Seigneur. Et vous regarderez, j'ai essayé de voir un peu dans l'histoire de l'Église, la notion du retour de Jésus. Il y a des périodes où on parlait du retour de Jésus, c'était enseigné, etc. Et il y a eu des périodes où... pendant des siècles, c'est terminé. Eh bien, ces périodes où on parlait du retour du Seigneur, sur le plan spirituel, c'était des périodes pour l'Église, hein, en général. Ont été des périodes de réveil, des périodes, vous voyez, d'Église vivante, si je veux dire, etc. Et après, petit à petit, quand on a oublié tout ça, ben, les Églises, elles ont vivoté. Il y a eu toutes sortes de fausses doctrines et de dénominations et de sectes, etc. etc. Donc c'est que quelque part, c'est important. Veillez. Regardez le père des peaux suivantes, le père du fils prodigue. En fait, le père du fils prodigue, il veillait. Si on relit bien, hein, Luc 15, on ne va pas le lire, mais si on réfléchit bien, si on repense à cette parabole, qu'est-ce qui se passe? Le père voit son fils de loin. Alors après, je vais passer sur tous les détails. Il va courir vers son fils. D'abord, pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a cette impatience. Enfin, le fils revient. Mon fils que voici était mort. Enfin, et voilà. Bon. Mais en même temps, il y a une chose qu'il faut savoir. On est encore sous la loi dans cette parabole. Hein. On est sous la loi. Et dans la loi, ce que le fils avait fait valait la lapidation. Alors peut-être aussi que le père a couru prendre son fils dans les bras pour pas que... on se saisisse de lui et qu'on le lapide. Voyez. Mais il y avait une attente. Et en fait, quand on attend quelqu'un, mes amis, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de regarder à la fenêtre pour voir s'il est là. Si c'est le soir, on allume la lumière à l'extérieur. On vérifie que la porte, eh bien, elle ne soit pas fermée à clé. Enfin, etc. Il y a tout un tas de trucs parce que, tout simplement, on anticipe cette venue. Eh bien, notre vie chrétienne doit ressembler à ça. Dans cette excitation, bon, tant pis, j'emploie le mot, hein, c'est pas grave, mais bon, c'est la dernière réunion, alors je peux y aller. Mais cette excitation-là, et des fois, frères et sœurs, on ne la retrouve pas. on ne la retrouve pas chez nous. On ne la retrouve pas dans notre vie. C'est le train-train, la routine, voilà, bon. Ok, c'est bien déjà, mais il faut plus que ça. Et en fait, dans cette parabole, si j'ose dire, Dieu honore le cœur qui s'emballe. Parce qu'il y a une récompense promise, vous le savez, on l'a vu l'autre jour. Il y a une couronne pour ceux qui vivent dans l'anticipation du retour de Jésus. C'est Paul qui nous le dit, de Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voyez, frères et sœurs. Et on ne peut pas être des tièdes qui tireront la patte si on est convaincu que le Seigneur revient nous chercher. Ce n'est pas possible. On va aller un petit peu plus loin. Je vous laisse avec ça. On va aller un petit peu plus loin. Être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Alors, rempli de l'Esprit, c'est un peu tout. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On parle des derniers temps. C'est dans ce temps-là. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, rempli de l'Esprit. C'est un texte qui, à lui tout seul, mériterait de passer du temps. Mais on va simplement relever ce soir le contexte, les jours sont mauvais, les jours dans lesquels nous sommes, pour dire, soyez remplis de l'Esprit. Les temps de la fin dans lesquels nous sommes nous imposent d'être remplis de l'Esprit. Littéralement, ce que dit ici le texte, le verbe, hein, soyez remplis de l'Esprit, c'est soyez en train d'être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois pour toutes. C'est quelque chose qu'il faut sans cesse renouveler. Soyez en train d'être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit parle déjà, diapo suivante, de conviction de péché. On commence par là, sinon c'est rien. Une conviction de péché. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Jésus, dans Jean 12, comme Jean 16, parle de conviction de péché, donc de jugement, conviction de péché, de jugement, etc. Jésus dit, Jean 12, 31, maintenant a lieu, alors de jugement, parce que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Il parle des temps de la fin. Parce qu'on est dans les temps de la fin, il y aura le Saint-Esprit qui convaincra de péché. Pourquoi ? Parce que le temps est court et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'allais dire, il faut que le temps presse et il faut, n'est-ce pas, eh bien, engranger au maximum, si je puis dire. Et dans Jean 16, 11, Jésus dit, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Mais conviction de péché, bien sûr, ça je ne vous l'apprends pas, je sais, mais conviction de péché à la conversion, ce qui va conduire à la conversion. Mes frères et sœurs, conviction de péché aussi, tout au long de notre vie. Moi, je bénis Dieu de ce qu'il y a des fois où il me convainc de péché. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Et pourquoi tu as parlé comme ça? Et que sais-je encore, vous voyez? Et heureusement, parce que imaginez que le Seigneur dit, bon, allez, hop, vogue la galère. Et puis quand c'est le moment, hop, tout le monde est parti et puis on est resté. Et moi, je préfère que de temps en temps, le Seigneur me botte un peu les fesses en disant, écoute, mon gars, ça, c'est pas bon, quoi. Bon, c'est un peu trivial, mais qui est ses convictions, heureusement. Et gardons-nous de fermer nos cœurs et nos oreilles à cette action de l'Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris dans l'ordre, mais c'est bon. Baptisé dans le Saint-Esprit, peu importe. Parce que c'est pareil, baptême dans le Saint-Esprit, quand le Seigneur en parle, c'est toujours autour bien des derniers jours. Dans les derniers jours, rappelez-vous, acte 2, 16, Pierre rappelle cela. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vous jongeront des visions, vous vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, etc. Et puis, pour aller un petit peu plus vite, au verset 20, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Mais ça, c'est après. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, là, c'est quand Jésus revient. Et voyez-vous, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, dans le livre des Actes, au chapitre 2, eh bien, on parle des derniers jours. Et quand Jésus, lui, l'a annoncé, eh bien, il a parlé. En tout cas, les apôtres, eux, ont tout de suite fait le rapprochement. Il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Point. Et il nous est dit, alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Ils font le rapprochement. Baptême du Saint-Esprit, rétablissement du royaume. C'est lié. Eux, tout de suite, ont fait le rapprochement. Alors, Jésus dira, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments, etc. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et frères et sœurs, dans les temps où nous sommes, eh bien, pour être prêts, il faut aussi que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est la doctrine pentecôtiste. Bon, excusez-moi, moi, je suis pentecôtiste. Mais enfin, ce n'est pas que la doctrine pentecôtiste. Alors, je sais que ça ne règle pas tout. Enfin, je vais pas plus loin. Je sais que ça ne règle pas tout. Mais c'est quand même pas pour rien que dans la parole de Dieu, eh bien, nous trouvons ce rapprochement-là. Nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Si le Seigneur l'a donné, ce n'est pas simplement comme une espèce de gâterie, je ne sais pas, pour des enfants turbulents ou autres, mais c'est parce qu'il y a une nécessité. Sinon, pourquoi Jésus, après avoir dit aux disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, etc., et puis il leur dit, bon, maintenant, vous allez à Jérusalem, vous attendez. Attends, Seigneur, on fait quoi alors ? Non, non, mais attendez d'être rempli, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, et puis après, vous serez mes témoins. Donc, il y a un besoin. Et aujourd'hui, comme alors ? On va passer... Ah non, on reste dans cette diapo, pardon. Les dons spirituels. Ça peut nous paraître étonnant, hein, les dons spirituels. Mais qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens au chapitre 1 et au verset 7, je crois bien. Voilà, il parle dans le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes. Donc, c'est lié là aussi. Souvent, on n'y pense pas à ça. Mais c'est lié aussi. Et, excusez-moi de dire cela, mais frères et sœurs, il faut que nous manifestions les dons spirituels. La référence, 1 Corinthiens 1, versets 7 et 8. Il faut que nous manifestions les dons spirituels. Alors, évidemment, ce n'est pas le coup du bon, ben, maintenant je vais faire. Non. Mais Paul dit inspirer. Demandons. Désirons. Nous cherchons. Moi, ça me choque quand quelqu'un dit « Oh, ben, il me le donnera quand il voudra. » Oui, mais quand toi, tu le voudras. Parce que, ben, c'est bon, vous relirez en Corinthiens 12, 13, 14, etc. Mais c'est une nécessité aujourd'hui pour l'Église. C'est un besoin. Parce que si Dieu le donne, c'est qu'on en a besoin. Dans l'attente où vous êtes. Dans l'attente où nous sommes, nous avons besoin. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais vous savez, des fois, il y en a qui ont... Oui, d'accord, c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Il était formidable, vous avez tous les dons, il ne vous manque aucun don dans l'attente. Puis après, bon, il faut régler les comptes qu'il y avait. Alors, c'est sûr, elle n'est pas parfaite, cette Église. Mais les dons spirituels, ce n'est pas les fruits de l'Esprit, ce n'est pas la même chose. Et les dons spirituels, c'est un cadeau que Dieu fait. Alors, excusez-moi, des fois, je suis un peu brusque, hein, vous l'avez vu. Mais bon, Dieu fait parler les ânesses, hein, s'il a envie. Donc alors, il ne faut pas dire, oui, mais si vous saviez comment il vit, lui, il prophétise. Mais moi, ça ne m'intéresse pas comment il vit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit. Alors, où ça vient de l'esprit, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Bon, ce qui ne veut pas dire vivez n'importe comment et prophétiser. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous avons besoin des manifestations de l'esprit. C'est dommage, alors je ne sais pas, ici ou pas, je ne sais rien. Hein. Bon, mais c'est dommage quand dans une assemblée, on n'entend que toujours les mêmes. Et il y a toute une diversité. Généralement, ça se cantonne parler en langue, interprétation et prophétie. Mes amis, il y en a encore derrière. Il y en a encore. Et on a besoin. On a besoin, dans l'attente où nous sommes, eh bien, du retour du Seigneur. Au suivant, marcher selon l'Esprit. Il y a quelque chose de surprenant. Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, parlant de ce que nous étions autrefois, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc bon, on a compris, hein, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, sauf que cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion produit quoi? Ce qui le caractérise, c'est évident. Mais avez-vous réfléchi à cela? Luc 21, 25, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne seront qu'au fer au bruit de la mer et des flots. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, ce ne sont pas les étoiles, la lune, etc. Ce sont les créatures célestes. Puissance des cieux, les puissances démoniaques, ténébreuses, etc., seront ébranlées. Alors, ces puissances-là sont ébranlées, ça produit quoi chez ceux qui sont animés de cet esprit-là? L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, de l'angoisse, des terreurs, etc. Et il est dit au verset 27, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuance, sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » La différence avec ceux qui ont l'esprit de Christ, Romains 8, 23, ce n'est pas elle seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Apocalypse 22, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entende dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Nous n'avons pas le même esprit, nous n'avons pas les mêmes réactions. Nous n'avons pas les mêmes sentiments. Le monde réagit comme il est parce qu'il y a un esprit qui l'anime, celui du monde, celui de Satan, etc. Mais nous, frères et sœurs, c'est l'esprit de Christ. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, votre délivrance est proche. Eux, quand ils voient ces choses arriver, sont dans l'angoisse et la terreur. On n'a pas le même esprit. Et on doit marcher, n'est-ce pas? On doit marcher selon l'esprit. Parce que sinon, on marche, excuse-moi de dire ça, mais on marche selon la chair. C'est-à-dire, on marche selon le monde. Devant les catastrophes, les machins, on est tremblant de terreur. Quand la bourse plonge, oh là là, ça y est, catastrophe, le cœur se met à battre à 100 km/h parce que mes économies. Et puis, bon, quand ça repart, ça va mieux, on est content, on donne une bonne dîme le dimanche, voilà. Mais bon, vous voyez, mais nous on n'appartient pas à ce monde, ce n'est pas l'esprit du monde qui nous anime, frères et sœurs, c'est l'esprit de Christ. Les mêmes choses produisent la terreur dans le monde, et nous doivent procurer, excusez-moi, de la joie. Levez la tête, votre délivrance est proche. Et on a besoin d'être donc rempli de l'esprit, comme je disais tout à l'heure, pour marcher selon l'esprit. Et là, évidemment, ça vaudrait encore d'y passer du temps, mais l'heure a tourné. Et on va arriver au cinquième point, au point suivant, qui est le mot « adorer ». Je vais aller assez rapidement. Adorer, vous allez dire, mais adorer quoi? Alors chanter les cantiques, tout ça. Oui, tout à fait. Mais... il y a ce texte aussi, 1 Corinthiens 11, 23, c'est la Sainte Cène. Okay? Et souvent, on n'entend pas, on ne pense pas dans ce contexte à l'attente du retour du Seigneur. Pourtant, l'Écriture nous y exhorte. Car j'ai reçu du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 23, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. On connaît ça, hein? De même, après souper, il a pris la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, on n'y pense pas souvent. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à est-ce qu'on va le faire? Ben, jusqu'à son retour. Et imaginez, un jour, ce sera la dernière fois. Je ne sais pas quand, hein, mais un jour, ce sera la dernière fois qu'on le fera. Vous imaginez? C'est notre dernier repas spirituel. Hein, notre dernier repas spirituel ensemble sur la terre. Après, là-haut, ça va être formidable, il y en aura un autre. Mais sur la terre, ce sera notre dernier repas ensemble avec le Seigneur. Vous imaginez? Et c'est pourquoi il faut que ce soit un acte d'adoration réfléchi, conscient. Je dirais même excitant, encore une fois. Hein, parce que, bon, de temps en temps, on a le droit un peu d'être excité. Bon, je ne dis pas on grimpe au plafond, on pousse des hurlements, mais bon, d'avoir hein, une espèce d'excitation, quelque chose qui nous prend là au cœur, à cœur, n'est-ce pas? C'est formidable ce que le Seigneur a fait. Son sang, etc. Mais nous, on est toujours tourné vers l'arrière. Toujours tourné vers le passé. Bien sûr que c'est un temps où il faut qu'on se rappelle ce que Christ a fait pour nous. Son corps qui a été meurtri, déchiré sur la croix. Son sang qui a été répandu. Mais c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'aspect d'un regard en avant. Vers le Seigneur. Vers son retour. Un acte d'adoration. Et chaque élément de ce repas doit nous rappeler qu'il revient. Et chaque fois, on est plus près de lui. De dimanche en dimanche, hein, ou chaque fois qu'on le fait, eh bien on est de plus en plus proche de lui. Et ça, c'est formidable. Mais sans oublier aussi que quand on parle du corps du Seigneur, on parle aussi de l'Église. Parce que, relisez le contexte. Hein, vous revenez au chapitre 10, parce que Paul amène le chapitre 11, bien sûr, mais il parle d'abord avant. Au chapitre 10, il y a toutes ces histoires de bisbilles, enfin, etc. L'un mange, l'autre a faim, l'un est saoul, l'autre, enfin, etc. Il y a tout ça. Et puis il dit, mais ça, c'est qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le repas du Seigneur. Enfin, il y a tout cela, vous voyez, qui est fait là. Et quand il est dit, eh bien, si on ne distingue pas, si on ne discerne pas le corps du Seigneur, ben, c'est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi l'Église. Et quand on prend le repas ensemble, frères et sœurs, ben on est le corps de Christ, on fait partie du corps de Christ, c'est le corps de Christ. C'est important aussi. Hein, ben je ne vous l'apprends pas, ça je le sais. C'est important de le réaliser. On n'est pas que des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, si j'ose dire, assis les uns à côté des autres en randonnion, mais on est dans une relation extraordinaire qui est celle du corps de Christ. C'est Finlay, qui raconte quand il s'est converti au tout début. Alors c'était un jeune homme à l'époque. Bon, puis ça fait quelques siècles, mais bon. Et le dimanche, donc, où il va à l'église, il est baptisé, il va dans une église. Mais alors à l'époque, vous comprenez, il y a des milliers de gens dans l'église. Et ce dimanche-là, bon, il est au milieu, l'autre, voilà. Et puis c'est le temps de la Sainte-Cène. Alors, chez les anglo-saxons, à l'époque, je ne sais pas maintenant, c'était une fois par mois, donc c'était un événement. Et là, ce dimanche-là, alors lui, tout jeune converti, bon, c'est le moment formidable. C'est le moment de la Sainte-Cène, au moment où arrive le pain, là, il est là. Et à côté de lui, de chaque côté, il y avait des frères. Alors, il se tourne vers un frère. « Ah, mon frère, je suis heureux, je vous salue. Vous êtes qui, jeune homme ?» Alors, ben oui, mais moi je suis votre frère. Comment? Mais je suis votre frère, vous comprenez? C'est extraordinaire. Alors lui, dans ses paroles, tellement emballé, etc. Ah oh bon? Alors là, s'il était tout coincé, il lui dit, mais on est le corps de Christ, frère. On est le corps de Christ. On fait partie du corps de Christ. Vous êtes mon frère, je suis votre frère. Mais réjouissez-vous, qu'il lui dit. Alors, vous imaginez, à l'époque, c'était en plus les... Je ne sais pas comment appeler ça, là, les trucs de raide, comme même pas s'élasser, vous voyez. Et bon, ça ne se faisait surtout pas. Mais lui, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, des fois, les jeunes convertis, ils arrivent, oula, ils commencent à bouleverser tout. Oula, mon gars, calme-toi, c'est pas... Bon, voilà. Comme quelqu'un un jour m'a dit, oh, tu verras, ça va te passer. Mais bon, merci Seigneur, ça ne m'a pas passé encore, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas des fois cela. Mais ça en fait partie, être prêt, c'est ça. Parce que, bon, excusez-moi de le dire d'une manière aussi abrupte, mais comment serions-nous enlevés avec l'épouse si nous avons méprisé cette épouse? Hein? Imaginez, on méprise l'épouse, et quand l'épouse s'en va, on va partir avec. Mais je ne sais pas, en fait, le Seigneur, il est plus compatissant que moi, mais moi, je ne sais pas, mais je dis, attends, qu'est-ce que tu viens faire? Ah ben oui, mais non, mais attends, l'épouse, tu t'en es moqué toute ta vie, tu lui as fait du mal. Il y en a qui divisent les églises, vous imaginez. Bon, tu as fait. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu veux me faire là? Maintenant, tu n'as pas ta place. Vous imaginez? Alors, bien sûr, moi, j'exagère toujours, mais ça vaut la peine d'y penser. Dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, mais c'est le corps de Christ que nous sommes, qui partageons le pain, le vin. C'est une grâce extraordinaire dont nous sommes tous l'objet. Cette parole m'avait touché de l'Épître aux Romains, le frère pour lequel Christ est mort, le frère et la sœur, bien sûr, pour lequel Christ est mort, etc. Mais c'est extraordinaire, frères et sœurs. Quand on se regarde les uns les autres, bon, on n'aurait jamais cru se retrouver. Des fois, on vient de toutes sortes de milieux, etc. C'est un peu comme les apôtres. Qui c'est qui aurait choisi les apôtres? Pas moi, je vous le dis. Bon, des illettrés, un traître, enfin que sais-je encore, même l'apôtre Paul, un gars qui avait l'air un peu spécial, quand même. Et, deux minutes. Un jour, j'ai lu un feuillet. Ah, il était super, le feuillet. C'était en fait un entretien d'embauche pour... Vous savez, aux États-Unis, bon, ça ressemble un peu à ça. Un entretien d'embauche pour des missionnaires. Donc se présente un gars, candidat pour partir en mission, et on lui demande un petit peu son curriculum. Alors le gars, il remplit son curriculum, puis après on lui dit, voilà, allez là-bas, nous on va se réunir. Alors il commence à regarder le curriculum. Bon, un ancien intégriste, il a des problèmes de relations avec ses collègues. Il s'est disputé avec un des collègues avec qui il travaillait. Il a refusé de prendre un jeune parce qu'il avait fait une erreur un jour, il ne voulait plus le pardonner, enfin, etc. etc. Il a des problèmes de santé, il a une mauvaise vue, il a des problèmes de ceci, bon, etc. Et la taille est bon. Au bout du compte, on dit non, stop. Donc on le fait venir, on dit, écoutez, monsieur, excusez-nous, mais voilà, ça ne peut pas faire, vous ne pouvez pas être missionnaire parmi nous. Ah, d'accord. Comment vous appelez-vous? Paul, autrement Saul de Tarse. Parce que si on résume physiquement, humainement, c'était ça, quoi. Et on peut dire un tas de choses sur Paul. Misogyne, il y a un bouquin qui a été écrit dernièrement pour dire que quelque part là, c'est un psychopathe un peu. Il ne pouvait pas voir les femmes, il raconte un tas de trucs. Enfin, vous voyez. Et c'était l'apôtre. Jésus a misé sur lui. Et il a eu raison, frères et sœurs. Alors l'Église, c'est pas toujours ce qu'on veut. Moi, j'ai eu un pasteur qui m'a enseigné, qui nous disait à l'Église, qu'est-ce que tu veux? L'Église, ce sont des tordus que Dieu essaie de redresser. Voilà. C'était sympa pour nous. Bon, il n'est pas là, je vous le dis. Donc, enfin, je ne vous le dis pas à vous, mais il nous le disait à nous. Voyez? Mais au fond, c'est un peu ça quand même. Bon, voyez? Mais c'est vrai que certainement, personne n'aurait misé un copec sur moi, quoi. Comme sur Paul, comme sur d'autres. Mes frères et sœurs, si on se regarde comme ça, j'allais dire humainement ou autre, on a un tas de défauts, on a un tas de qualités aussi, heureusement. Mais bon, nous sommes l'Église, nous sommes le corps, que Dieu est en train de travailler, de purifier, de transformer. Et un jour, eh bien, l'Église, elle sera devant lui, nous serons devant lui, sans tache, ni ride. Ni rien de semblable. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Alors, soyons prêts. Soyons prêts avec tout ce qu'on a vu ce soir. Le Seigneur vient. Et une dernière diapo, si mes souvenirs sont exacts. Ce que je vous dis, je le dis à tous, dit Jésus, Marc 13, 37. Veillez. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillons, frères et sœurs. Merci pour votre patience. Ce soir, j'ai été bavard plus que d'habitude.